que ce qui avant était puni. Est-ce que les tabous que ça a laissé, parce que de longues années après on va dire une sorte de libération, il y a quand même eu des années où c'était vraiment tabou de parler du roi, que ce soit en bien ou en mal. Et est-ce que vous pensez que ça s'est libéré, parce que d'ailleurs vous avez sorti un livre, vous parlez du roi quand bien, mais vous en parlez. Est-ce que vous pensez que ça va?
Je ne sais pas si j'en parle quand bien dans ce roman. Dans Le Fou du Roi, c'est-à-dire j'aurais pu être plus méchant, oui. Mais je montre quand même qu'il s'agit d'un dictateur. Hein. Mmh. Il s'agit de quelqu'un qui opprime, quelqu'un qui fait trembler tout le monde. C'est-à-dire il y a une ambiance dans Le Fou du Roi. C'est-à-dire j'ai été aussi loin que l'on pouvait me permettre de parler d'un roi dans ce pays aujourd'hui.
On peut toujours pas se permettre au Maroc de parler librement.
On peut, c'est-à-dire, c'est le jour et la nuit par rapport à il y a 15 ans. C'est le jour et la nuit. Là, on peut parler. Là, je peux parler dans une radio, oui. ou dans un lycée, ou avec les jeunes, etc. Et je n'ai plus peur. À l'époque, on disparaissait. Mm. On était là et soudain, on disparaissait. Ouais. C'était terrible. Mm. Et on savait pas. Il y avait ce qu'on appelle l'arbitraire. On pouvait sévir, mais sans limite, et personne n'avait rien à redire. Plus, ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, nous avons un pays où il y a une presse qui fonctionne plus ou moins bien. Bon, de temps en temps, on casse la gueule à un journal quand il dépasse les lignes rouges. Oui. Alors, les lignes rouges, c'est quoi ? Il ne faut pas insulter le roi, il ne faut pas parler du Sahara trop, dire qu'il n'est pas marocain. Il y a deux lignes rouges. Mais en dehors de ces deux lignes rouges, vraiment, on peut parler, on peut critiquer, on peut écrire. À un certain moment, Le Fou du Roi, je ne savais pas si on allait me le laisser passer. Il est passé comme une lettre à la poste.
D'accord. Bien. Donc, en parallèle de ces différentes œuvres, vous avez aussi œuvré dans le caritatif avec votre fondation, donc la fondation Alizawa, que vous dirigez avec le réalisateur Nabil Ayouch depuis 2009. Le but de cette organisation, donc à but non lucratif, est d'utiliser l'art et la culture contre les différents facteurs perturbateurs de l'éducation de ces enfants-là qui viennent des milieux défavorisés, et pour recréer un contact entre les habitants des quartiers défavorisés et le reste. C'est le cas pour Sidi Moumen, par exemple. Vous avez créé un livre sur Sidi Moumen. Et vous avez ouvert un centre culturel qui s'appelle les Étoiles de Sidi Moumen. En quoi est-ce qu'il consiste, ce centre ?
Alors, en 2003, il y a eu des attentats. Je sais pas, vous étiez né,
oui, en 2003. Oui, deux ans.
Donc, en 2003, il y a eu des attentats à Casablanca. 14 jeunes sont sortis d'un bidonville et ils ont fait un carnage. 45 morts, 100 blessés. Et donc, j'ai voulu comprendre un peu ce qui nous arrivait. On pensait au départ qu'on était immunisés contre le terrorisme, que ça ne nous concernait pas. Et on s'est réveillé un matin et c'était bien nos enfants, ouais, qui avaient fait péter Casablanca. Vraiment, ça a été la merde, quoi. Ouais. Et j'ai voulu comprendre ce qui nous était arrivé. Et j'ai commencé à me déplacer dans Sidi Moumen pour rencontrer les jeunes. Et voir qu'est-ce qu'il leur a pris, quoi. Et là, je me suis retrouvé avec quelque chose qui ne ressemblait pas au Maroc. 300 000 habitants dans un bidonville, mais inimaginable. C'est-à-dire, moi, je pensais, des bidonvilles, il y en a un peu partout au Maroc. Mais des petits bidonvilles. Il n'y avait pas... C'est une ville. 300 000 habitants, c'est une ville. C'est une ville trois fois Essaouira. C'est énorme. Et là, j'ai commencé à fréquenter des associations, essayer de comprendre. Et j'ai trouvé les enfants qui étaient là, ils ressemblaient aux gamins avec lesquels je jouais au foot pieds nus en Médina. Et donc, quand on parlait de terroristes, on me les vendait comme des monstres. Et moi, j'avais envie de les voir autrement que des monstres. Ils ont fait un acte monstrueux, mais moi, je les voyais plus comme des victimes. Mmh. Et j'avais envie d'écrire ça, de dire, ces enfants-là ne sont pas des monstres, ce sont des victimes. S'il y a un monstre, c'est l'État qui les laisse vivre dans ce cloaque, dans ce bidonville inimaginable, où il y a les égouts éventrés, où il n'y a pas d'électricité, où l'eau... C'est terrible. Mmh. Et donc l'État est un peu terroriste hein, s'il les laisse, il laisse des gens vivre comme ça. S'il y a des responsables, c'est cette mafia religieuse qui s'est installée dans ce bidonville et qui conditionne ces gamins. Mais ces gamins en soi, c'est-à-dire eux-mêmes, ce ne sont pas des monstres, ce sont des victimes. Et donc j'ai écrit ce livre qui a été adapté au cinéma par Nabil Ayouch. Et évidemment, avant de lui vendre les droits pour le laisser faire le film, il fallait qu'on se mette d'accord que ces enfants ne sont pas des monstres, qu'il faut les aider. Et il était d'accord avec moi, il avait la même vision, et il a fait son film, Les Chevaux de Dieu. Et pour le faire, il a engagé des enfants du bidonville. Les enfants du bidonville sont les acteurs. Et donc, pour les faire jouer, il leur a donné un appartement, ils sont devenus propres. Ils mangeaient bien et ils venaient pour le tournage, ils remettaient leurs anciens vêtements, etc. Et quand on allait manger à midi, il y avait un buffet pendant le tournage et les enfants ils remplissaient leur assiette, mec, parce qu'il y avait un buffet froid, un buffet chaud, non ? Il y avait un buffet, mais self-service, et ils remplissaient leurs assiettes parce qu'ils avaient. Ils avaient l'impression que la fête allait terminer. Ils avaient faim. Mais ils ne finissaient jamais leurs assiettes parce qu'ils se servaient 5 parts. Et un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ces gamins-là? Tu ne vas pas les jeter. Il m'a dit, mais ils sont 14. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je ne veux pas adopter 14 enfants. Et alors, c'est là où on a décidé de faire quelque chose pour eux. Moi, mon bouquin, Les étoiles de Sidi Moumen, a été traduit en... je ne sais pas, 12 ou 13 langues. Et lui, son film a été vu dans le monde entier. Donc on a gagné beaucoup d'argent. On s'est dit, peut-être qu'il faut rendre à ces gamins cet argent. Il faut rendre aux gens de Sidi Moumen ce fric qu'on a gagné. Et cette notoriété, il faut qu'on la mette au service des enfants. Et c'est là qu'on a créé un premier centre culturel qui regroupe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 1000 enfants. Qui viennent, ils ont un cinéma de 200 places, ils ont une médiathèque avec 15 000 livres, ils ont des salles d'ordinateur, ils dansent le rap, il y a des salles de musique avec tous les instruments, etc. C'est-à-dire qu'on a créé presque un petit centre culturel français, mais au cœur du bidonville. Ouais. On a créé ce centre et maintenant, ce centre-là, le premier centre, il arrive à vivre sans nous. Il peut vivre sans nous. C'est-à-dire, on a trouvé des financements, des montages, avec des partenariats, des subventions, etc., pour qu'il puisse vivre sans nous. Alors, du coup, on s'est dit, et pourquoi s'arrêter là ? Et là, nous avons ouvert un deuxième centre dans un autre bidonville qui s'appelle Bni Makada, un bidonville comme Sidi Moumen, qui est à côté de Tanger. Et là aussi, c'est encore 300, 400 000 habitants. Et donc, là, on a créé un superbe centre culturel, et pour le financer, c'est ce qu'on fait. Par exemple, ce mois-ci, on a fait une grosse exposition à Casablanca qui dure jusqu'au 5 janvier, et j'ai ameuté tous mes copains artistes, j'ai ramassé 55 tableaux. Et voilà, là, on est déjà à 1,5 million de dirhams. Et donc, d'ici la fin du mois, on va ramasser 3 ou 4 millions. Et avec ça, on va faire vivre le centre pendant 2 ans.
D'accord.
Et nous ouvrons un autre centre à Fès et un autre centre à Safi. Tout ça, c'est un chantier. Donc, l'art, finalement, peut être utile directement à la société. C'est pas que du blabla. Ça peut être des choses... extrêmement concrète.
Et il se trouve que des centres comme ça aussi, bon, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais ça peut éloigner ces enfants-là de tout ce qui est extrémisme, parce qu'on sait que c'est des proies, et leur apprendre ce que c'est que la vie en société. C'est
exactement, parce qu'ils avaient l'habitude de se rassembler dans des garages avec cette mafia qui n'a rien de religieux. Ce sont des gens qui ont un vrai projet politique. Ils utilisent la religion pour arriver à leur fin, mais ils n'ont rien de musulman. Ce sont des assassins. Et donc, ils ont beaucoup d'argent. Un argent qui vient souvent de pays amis, de l'Arabie Saoudite, du Qatar. Ce sont des gens qui financent c'est salopard. Et ils sont avec nous à Sidi Moumen, parce que nous avons les mêmes objectifs quelque part. Eux, ils leur apprennent la culture de la mort, et nous leur apprenons la culture de la vie.
D'accord. Bah, écoutez, c'est exceptionnel. D'ailleurs, une anecdote raconte qu'un jour, les hommes du quartier refusaient l'accès des enfants au centre, et que c'est les femmes qui sont venues pour forcer l'entrée et permettre aux enfants de rentrer.
Ah, absolument, parce qu'il y avait le film Much Loved de Nabil Ayouch. Much Loved, c'est qui raconte la prostitution à Marrakech. Et la prostitution avec les Saoudiens, avec des gens qui ont beaucoup de fric. Ouais. Et le film a été interdit, a été censuré, qui est une absurdité, parce qu'aujourd'hui, la censure ne veut plus rien dire.
Elle ne sert à rien, surtout qu'on peut accéder à tout sur Internet.
Et elle devient contre-productive pour les censeurs, puisque le film est devenu un best-seller mondial. Ouais. Il a eu un succès mondial. Il a fait 350 000 à Paris, en France. 350 000 entrées. Nabil Ayouch n'avait jamais fait 300 000. Donc finalement, la censure devient contre. Donc quand le film a été censuré, un jour il y a eu 200 barbus qui se sont installés devant le centre culturel de Sidi Moumen. Et vraiment, c'est effrayant quand on voit 200 barbes qui vous regardent d'un air méchant. c'est pas drôle. Tu te dis, attends, ils vont me zigouiller. et alors, on était paniqués, on ne savait pas quoi faire. On a attendu, on a tempéré. Et finalement, ce sont les mamans à 4 heures avec leurs petits qui ont forcé le passage. Elles ont chassé les islamistes. Mais vraiment, elles les ont chassées. Et ça, je pense, ça a été notre première victoire à Sidi Moumen.
D'accord. Et ça, à votre avis, qu'est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça traduit, cet événement, par rapport à la société marocaine, son évolution depuis l'arrivée, enfin la société de Sidi Moumen, son évolution depuis l'arrivée du centre, et la place qu'a pris ce centre maintenant dans leur vie?
Ce centre, maintenant, on est à 1000 enfants, on ne peut plus en accepter d'autres. Et alors, le but au départ, c'était de dire à l'État, mais mon Dieu, c'est votre job, c'est pas le mien, moi je suis artiste. Moi, on me paye pour dessiner. Si vous voulez, je sais chanter. Je peux danser, je peux faire ce que vous voulez. Mais je sais pas, mais c'est pas mon job, moi, c'est le job de l'État. Et donc, finalement, l'État, il démissionne. Et donc, cette société civile qui existe aujourd'hui dans ce pays, elle est vitale, mais l'État la laisse faire parce qu'il ne fait pas son job.